C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Radio Caroline est donc revenue sur les ondes, mais l'époque a changé. Dans les années 60, la station occupait un immeuble dans le quartier de Mayfair, au centre de Londres. En 1972, elle ne dispose plus que d'un modeste bureau à la haie, et c'est un peu l'anarchie qui règne au sein de l'équipe. Avec une tentative de prise de contrôle du navire par une partie de l'équipage le 30 décembre 1972. À trois reprises au cours de l'année 1973, Ronan O'Reilly sera contraint de louer le Miami Go à d'autres stations pour générer des revenus, car Radio Caroline, qui accumule les problèmes techniques, est souvent absente des ondes. Au printemps, le gouvernement néerlandais se dirige inexorablement vers l'instauration d'une loi anti-radio offshore. Quel avenir pour les trois navires toujours en activité au large des côtes hollandaises ? Malgré les incertitudes, il se trouve toujours des organisations prêtes à se lancer dans l'aventure de la radio maritime. Le 26 mai 1973, The Voice of Peace ouvre son antenne. C'est la première radio offshore au Proche-Orient. Le 15 juillet, c'est Radio Atlantis qui démarre ses émissions. Certes, elle émet depuis le Miami Go de Radio Caroline, mais elle prévoit d'acquérir son propre bateau. La fin de l'année 1973 verra encore la naissance d'autres radios.
Radio Atlante.
We were all wounded. Les stations de radio offshore n'ont pas seulement laissé une empreinte dans l'histoire de la radio et dans l'histoire populaire en général. Elles ont aussi laissé une trace dans la langue anglaise. Le mot anorak, qui désigne normalement un vêtement, a aussi un autre sens. Un anorak est une personne qui se passionne pour un domaine particulier dans ses moindres détails. L'évolution du sens de ce mot vient d'une belle journée de début d'été 1973, au moment où, à bord d'une embarcation, des fans de Radio Caroline sont venus aborder le Miami Go. Depuis le pont, remarquant le nombre important de fans portant des anoraks, Andy Archer a remercié tous les anoraks d'être venus voir la station. Le terme a rapidement été repris pour désigner les fans de radio offshore, puis s'est étendu à tous les passionnés d'un sujet précis.
And as well as reading out requests, Hans has also got some information for the Caroline Club members, also about a journey out on the North Sea to visit Caroline later on in the year.
Ja, dat is dus op 28 juli, maar die is tot mijn spijt al uitverkocht, maar we hebben er nog één op 4 augustus. En die op 4 augustus, als men daar nog mee wil, dan kan men even schrijven naar postbus 9460 in Den Haag, in Holland.
And I think this is about the third time you've done it, yeah?
Yeah.
And they've all been very successful.
Very, very successful.
So let's hope lots of people come this time to see our ship. This is John Lennon next from the Imagine album and a track called Oh Yoko.
Le mardi 31 juillet 1973, sur la fréquence 270 mètres en onde moyenne, on a pu entendre plusieurs fois dans la journée des essais de transmission d'une nouvelle radio.
Goedemorgen, luisteraars. Hier is Radio Condor op golflengte 270 meter. Of 1111 kilohertz. Wij zenden vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.
Deux Néerlandais, Steph Williamson et Jerry Elfering, sont à l'origine de ce nouveau projet. Dans le courant du mois de juin, ils ont fait l'acquisition d'un ancien chalutier islandais et l'ont discrètement fait aménager en navire radio dans le port d'Ijmuiden. L'émetteur, d'une puissance modeste de 500 watts, a été assemblé à partir de composants de l'émetteur de Radio Capital, qui lui-même avait été fabriqué à partir de l'émetteur de la lointaine station britannique Radio 270. À l'époque, il était peu aisé de se fournir en matériel de diffusion radiophonique sans éveiller la curiosité des autorités. Il n'était donc pas rare que des vestiges d'anciennes radios, tant au niveau du matériel de diffusion que des bateaux, soient réutilisés par d'autres stations. Radio Condor doit diffuser des programmes à but social, humanitaire et religieux ponctuée d'une musique que l'on décrirait aujourd'hui comme « easy listening ». Elle doit tirer ses revenus d'un financement provenant surtout d'organisations religieuses évangélistes. Rebaptisé Zondag Sonagon, le navire appareilla pour la haute mer le 30 juillet et jeta l'ancre dans les eaux internationales au large de Zandvoort. Le 31 juillet, des essais de transmission débutent.
Leven in een wereld van democratie, zegt u?
Vergeet het maar.
Wie reeds de macht heeft en op een gepantserde zuil zit, die heeft het voor het zeggen, al heeft hij niets te zeggen. Maar de minderheden die zich graag met een boodschap tot hun medemensen willen richten of met elkaar iets van de grond willen tillen, die hebben wel een stem, maar ze krijgen geen stem die door de radio gehoord wordt. Voor deze minderheden is de Condor uitgevaren. Schrijft u ons?
Dat kunt u dan doen naar postbus 2047 in Haarlem. Ik herhaal, postbus 2047 in Haarlem. Dank u wel.
Durant les jours suivants, Radio Condor fit peut-être d'autres essais de diffusion. Mais le 10 août, le câble d'ancrage du navire se rompit, contraignant un retour au port. À son arrivée à Ijmuiden, les fonctionnaires de l'inspection maritime montèrent à bord et déclarèrent le Zondag Sonagon inapte à la navigation. Immobilisé durant plusieurs semaines, le bateau fut finalement vendu à la ferraille, mais fera l'objet d'un curieux tour de passe-passe. La société qui le racheta ne le démonta pas et le laissa discrètement se faire remorquer vers la haute mer dans la soirée du 25 septembre. Une fois dans les eaux internationales, il fut racheté par Steph Williamson, l'un des deux fondateurs de Radio Condor. Toutefois, la radio ne revint jamais sur les ondes. Quant au navire, il sera plus tard utilisé par une autre radio.
Radio Condor gaat nu sluiten. U heeft geluisterd naar een speciale testband van Radio Condor op 270 meter, 1111 kHz. Ik dank u wel.
Quelques jours auparavant, le 12 septembre, un peu avant minuit, heure de la côte Est, la première radio offshore américaine d'après-guerre débutait un essai de transmission. Si l'on exclut les émissions sporadiques depuis la mer de Voice of America, qui est une radio publique, les États-Unis n'avaient connu qu'une seule radio offshore privée, RXKR, en 1933. Comme l'État américain n'a pas de monopole sur la radio et la télédiffusion, les entreprises privées sont autorisées à fabriquer et diffuser des programmes radio. À l'époque, il y avait tout de même des règles à respecter, comme une certaine équité dans la présentation de certains sujets pouvant susciter la controverse. C'est cet aspect qui va être à l'origine de la première radio offshore américaine d'après-guerre. Le révérend Carl McIntyre, pasteur fondamentaliste d'une église presbytérienne biblique du New Jersey, produisait des programmes radio diffusés sur près de 600 stations aux États-Unis, ainsi que sur sa propre radio WXUR. Mais les opinions qu'il exprimait devinrent de plus en plus extrêmes et sans contradicteurs. Les radios cessèrent les unes après les autres de relayer ces programmes de peur d'avoir des ennuis avec la Federal Commission of Communication. Devant les nombreuses mises en demeure restées sans effet adressées aux révérends pour non-respect d'équité dans le traitement de l'information, la FCC finit par ordonner la fermeture de sa propre radio le 5 juillet 1973. Comme on peut l'imaginer, le révérend n'en resta pas là, et lors de ses dernières émissions, il annonça qu'il créerait une nouvelle station, Radio Free America, pour, je cite, « pouvoir faire la démonstration de la liberté d'expression telle que l'ont voulu les pères fondateurs ». Bien sûr, le religieux pensa immédiatement à utiliser un navire ancré dans les eaux internationales. Mais Carl McIntyre était sous surveillance et le département d'État réussit par deux fois à bloquer sa tentative d'acquérir un bateau. McIntyre parvint finalement à louer le MV Oceanic, un ancien dragueur de mine qui fut aussi utilisé par le commandant Cousteau. Équipé d'un studio et d'un émetteur, le bateau, rebaptisé Columbus, prit position le 28 août 1973 au large de Cap May dans le New Jersey. Le 12 septembre, un peu avant minuit, heure de la côte Est, un signal fut brièvement émis sur la fréquence 259 mètres. Le lendemain, on put entendre de la musique. Mais au bout d'une demi-heure, la transmission cessa à cause d'un début d'incendie sur le bateau. Le 14 septembre, le Columbus rompit son ancre et dut rentrer au port. Le lendemain, le bateau repartait dans les eaux internationales et le 16, une nouvelle transmission fut effectuée alors que le bateau longeait la côte en attendant de pouvoir rejoindre le port afin de terminer les réparations. Le 19 septembre, le Columbus était de retour dans les eaux internationales et continuait à naviguer en raison d'une incertitude sur la limite des eaux territoriales. À 12h23, Radio Free America fut officiellement lancé par le révérend Carl McIntyre.
Radio Free America, out in the North Atlantic, goes on the air.
En fin d'après-midi, la Federal Commission of Communication annonça avoir reçu une plainte de la station WHLW de Lakewood pour brouillage de ses émissions par Radio Free America. Par prudence, le révérend Carl McIntyre décida d'arrêter l'émetteur le jour même vers 22h15. Mais cela n'affaiblit pas la détermination de la FCC qui annonça que Radio Free America avait été mis sur écoute afin de demander à un tribunal de prendre une ordonnance de fermeture. Carl McIntyre répliqua en annonçant vouloir lui aussi saisir les tribunaux, car selon lui, Radio Free America n'est pas une station pirate. Le 20 septembre, le tribunal fédéral de Camden délivra une ordonnance de fermeture de Radio Free America pour brouillage de deux stations terrestres, WHLW à Lakewood dans le New Jersey et KHL à Salt Lake City. Le tribunal avait les moyens de faire respecter cette ordonnance car le Columbus était immatriculé aux États-Unis. De ce fait, le révérend était passible d'une amende de $10,000 et d'un an de prison. Carl McIntyre avait volontairement conservé une immatriculation américaine car selon lui, la démarche de délocaliser la domiciliation d'un navire radio était contraire aux articles sur la liberté d'expression de la Constitution américaine. Ce rigorisme lui fut fatal. Malgré de nouveaux essais de transmission sur une nouvelle fréquence, Radio Free America ne revint jamais sur les ondes.
This is Carl McIntyre speaking to you from the North Atlantic. Radio Free America just on the air, 2 minutes. Our first text will be 2 Chronicles, chapter 7, verse 14.
Le 1er octobre 1973, une tempête fait rage en mer du Nord et le mât du Miamigo s'effondre, mettant fin à toutes les transmissions radiophoniques. Un mât et des installations provisoires furent rapidement réinstallés. Mais l'ensemble tomba à nouveau en panne le 18 octobre, ce qui tomba plutôt mal pour Ronan O'Reilly. Désormais concentré sur la location du Miamigo, l'Irlandais avait signé un nouveau contrat avec Sylvain Tack, un homme d'affaires belge qui voulait lancer une concurrente à la populaire Radio Atlantis. Courant septembre, après l'arrêt des émissions d'Atlantis, des essais avaient eu lieu sous le nom de Radio Jopi, puis Radio 385, et début octobre sous le nom Radio Miamigo. L'accord entre Ronan O'Reilly et Sylvain Tack était plus lucratif que celui conclu avec Radio Atlantis. Le Miamigo, devenu silencieux, compliquait la situation. Voici le dernier jour d'émission de Radio Atlantis depuis le Miamigo, le 18 octobre.
De tijd op Radio Atlantis is 7 uur. U luistert naar Radio Atlantis op 259 meter, zendend vanaf de Miamigo in de Noordzee. Mijn naam is Harry Bergman en ik zal het programma verzorgen tot 9 uur.
Adrian van Lanschot devait redémarrer au plus vite Radio Atlantis, car la nouvelle station que devait accueillir le Miamigo serait une concurrente. Il savait que l'équipe d'O'Reilly ferait tout pour remettre en état au plus vite les installations afin d'honorer les engagements pris avec la nouvelle venue. Toujours à la recherche d'un navire, Adrian van Lanschot fit l'acquisition du Zondaxonagon, brièvement utilisé 2 mois plus tôt par l'éphémère Radio Condor. Le bateau fut rebaptisé Janine, c'était le prénom de Madame van Lanschot, et l'émetteur installé fut celui qu'avait utilisé Radio Nordsee depuis Rem Island en 1964. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, aurait dit Lavoisier. Le 3 novembre, des essais de transmission ont lieu, et à nouveau le 15. Mais le 17, le câble d'ancre du Janine se rompt et le bateau commence à dériver. Les 4 membres d'équipage sautent dans le canot de sauvetage et abandonnent le bateau à la mer. Il est finalement remorqué jusqu'à Cuxhaven en Allemagne. La future concurrente, Radio Miamigo, tardant à se faire entendre, l'équipe de Radio Atlantis décide de prolonger les réparations sur le Janine qui quitta l'Allemagne le 22 décembre 1973 et fut remorqué dans les eaux internationales au large de Knokke, en Belgique. La station démarra des essais de transmission la veille de Noël, mais dut faire face à des problèmes techniques durant plusieurs semaines. Le 31 décembre, sa concurrente Radio Miamigo fait un premier essai de diffusion. La loi belge, similaire au Marine Broadcasting Offence Act britannique, empêchant tout lien terrestre avec une radio offshore, la station installa des bureaux et un studio à Breda et une boîte postale à Hilversum, en Hollande.
Op deze tweede dag van de testuitzendingen van de Radio Miamigo willen wij alle luisteraars in België, Nederland en Luxemburg, kortom de Benelux, van harte verwelkomen bij dit nieuwe station in de middengolf. Uitzendend op 1187 kHz en dat komt overeen met 259 meter in de middengolf. En dan vanaf morgen 12 uur geprogrammeerde programma's, dus blijf standby op deze golflengte.
En cette fin d'année 1973, les auditeurs déjà nombreux de The Voice of Peace sont privés de leur radio depuis un moment. La station ne diffusait pas de publicité, espérant vivre grâce aux dons récoltés par la Shalom Peace Foundation. Mais les dons étaient très faibles et Abinathan dut se résoudre à ouvrir son antenne à la publicité. Après la guerre des six jours, les annonceurs réduisirent considérablement leurs achats d'espaces publicitaires. Les appels aux dons lancés sur l'antenne n'eurent pas vraiment de succès. Et le 9 novembre 1973 à 15h, la voix de la paix se tut. Le MVP se navigua jusqu'au port d'Ashdod en Israël et l'équipage débarqua à terre. Infatigable, Abinathan jura qu'il ferait tout pour redémarrer la station au plus vite. Il eut l'idée de déplacer le MVP du côté de la partie européenne de la Méditerranée où il espérait lever des fonds plus facilement pour sa radio et sa campagne pour la paix. Un peu avant Noël 73, le navire sillonnait la côte sud de l'Italie. Mais aucune émission ne redémarra. Au début du mois de janvier 1974, il arriva dans le port de Marseille. Il faudra encore attendre de nombreux mois avant que la voix de la paix ne puisse à nouveau être entendue.
בואי ניפגש בדרקסטור שלום.
אתה רוצה חתיכה?
את רוצה אווירה, בושם או כל מיני מתיקה?
לפתע אורחים באו לסעודה ביום או בלילה, איזו הפתעה.
בואי ניפגש בדרקסטור שלום בכיכר אתרים ברחוב הירקון.
שבט של קניבלים מבשלים בן אדם, זה שממונה על הסיר פותח את המסע, זורק פנימה תפוחי אדמה ונותן להוס בנג על הראש. ניגש אליו ראש השבט ושואל אותו למה, אז הוא אומר המלוכלך הזה אוכל לנו את כל התפוחי אדמה. טוב,
Le 7 janvier 1974, juste après la fin des programmes de Radio Miamigo à 21h, Radio Seagull fit son retour sur les ondes dont elle avait été souvent absente ces derniers mois. Une rumeur circula selon laquelle George Harrison, qui était un ami de Ronan O'Reilly, finançait la station. Devenu plus professionnel, Radio Seagull ne tarda pas à attirer un public d'amateurs d'albums de titres à tendance prog majoritairement ignorés par les autres stations de radio terrestre ou offshore.
Right, there we are, Jay. Give me love and give me peace on earth.
George Harrison.
Right. Welcome to Radio Seagull on 259 meters. And on this opening evening, Johnny and myself will be playing all the music from George Harrison. And as well as George Harrison, you'll be hearing music from probably some of the best musicians in the world. Jesse Ed Davis, Eric Clapton, Leon Russell, Bob Dylan, Jim Horn, Ringo Starr, Jim Gordon, Alan White, Klaus Voormann, Carl Radl, Gary Wright, Bobby Whitlock, Billy Preston, Gary Brooker, Pete Drake, Dave Mason, Bobby Keys, Jim Price, as well as George Harrison, of course. Pretty impressive, isn't it?
It is, too. I'd just like to send a New Year's message.
Yeah.
And that this next 6 hours is especially dedicated to Roman, who's the driving force behind this.
Yeah.
And also to George Harrison and friends, which includes most of the listeners, right? Mm. So we're covering everyone. And also all the people at Apple Records who are kind enough to lend us the albums.
That's very kind of them. So thanks very much indeed, Apple. And I think George Harrison's about the nearest thing to Radio Seagull, so that's a very appropriate start to our programs, I think.
Right. Yeah. I certainly agree with you.
Yeah, this one's called What It Like.
Cette intervention d'Andy Archer et Johnny Jason rappelle par certains aspects celle de Christopher Moore et Simon Dee le 28 mars 1964 à l'ouverture de Radio Caroline. Dans les deux cas, une dédicace spéciale est faite à Ronan O'Reilly. Presque 10 ans après le lancement de Radio Caroline, son emblématique fondateur incarne toujours un esprit de liberté. Et en 1974, sans doute encore plus qu'en 1964. En effet, les conditions de travail des DJ ne sont plus les mêmes. Le Miamigo est un vieux bateau, pas confortable, les retours à terre sont plus compliqués, les DJ sont mal payés et la station n'a plus du tout l'audience qu'elle avait durant la glorieuse époque des radios offshore britanniques. Être DJ sur le Miamigo en 1974, c'est faire le choix délibéré de suivre Ronan O'Reilly dans sa démarche de résister aux autorités des pays européens qui veulent faire taire les radios flottantes. L'histoire se répète, car les 4 navires radio en activité en mer du Nord vont devoir faire face à une nouvelle réalité. Le seul pays de la région qui les tolérait encore va rejoindre les autres nations dans leur démarche d'isoler les bateaux émetteurs. En effet, le 22 janvier 1974, la chambre haute du Parlement néerlandais adopta la loi anti-radio offshore. Le ministre Henri Vandoor déclara toutefois que la demande de Radio Veronica d'être intégrée aux radios terrestres serait examinée. Cette affirmation était-elle sincère? En tout cas, elle poussa la station historique à adopter un code de bonne conduite en affirmant qu'elle continuerait à lutter pour obtenir une fréquence, mais sans recourir à la moindre action illégale, et qu'elle cesserait ses émissions dès l'entrée en vigueur de la loi si elle n'obtenait pas de fréquence. Du côté de Radio North Sea International, des rumeurs commencèrent à circuler sur la possibilité de déplacer le Mebo 2 vers un autre lieu d'ancrage et de poursuivre les programmes en anglais. Il sembla assez vite acquis que les émissions en néerlandais ne se prolongeraient pas au-delà de l'entrée en vigueur de la loi. Sur le Miamigo, on ne semble pas très préoccupé par ces échéances. Et le 23 février, le nom Radio Seagull est abandonné au profit de celui de Radio Caroline.
Good evening, the time is now exactly 9 o'clock.
It's a story of man's life for freedom. The beginning is in the past, the middle is now, the end is in the future. It is a story of sadness and of triumph. August the 14th, as disc jockeys Robbie Dale, Johnny Walker and Ross Brown leave Liverpool Street, London, spurred on toward the sea by the hundreds of cheering people. See them now as they stand on the tender. There are tears in their eyes as their families, their homes, and their loved ones are left behind. 3 o'clock on this Sunday afternoon around 266 Big Lily.
Le 14 avril 1974, Radio Caroline fête ses 10 ans avec une émission spéciale. Et à cette occasion, on peut réentendre les deux premières voix que les auditeurs ont entendues le 28 mars 1964, Chris Moore et Simon Dee. Ce dernier raconte notamment à l'ingénieur Peter Chicago l'histoire de la première transmission de la station.
Now you were telling me about the unofficial opening. Explain that a bit more thoroughly.
Well we had a few goofs, a few happy mistakes when we were fitted out in Dundalk, in Green Ore, when we were testing the equipment and the Scandinavian engineer gentlemen who were fitting all the equipment, all this mysterious
big grey boxes.
Yes, full of amazing dials and tubes and wires and things, because we were really quite a lethal ship in those days. We didn't have much protection against all this high voltage stuff, but we stood wary of it. But we were testing it one evening. I think it was the Sunday night before the Monday of Easter week when we sailed from Northern Ireland down the Irish Sea, of course, and into our final anchorage off Felixstowe. But just the day before we sailed, we tested, and we had a few people ashore with transmitters, with receivers, rather, picking up the signal, right, to test the strength. And we were punching out Ray Charles music, because the boss, the genius there, was our signature tune, really. So if anyone was ashore and found some unidentified Ray Charles music playing, he'd know it was Caroline testing. And so we were putting this out. And unfortunately, the Scandinavian gentleman had forgotten to put in a piece of rather vital equipment, the result being that most of Northern Ireland, and certainly everyone within a radius of, I think, something like 5 miles, who had their television sets on that night, whatever was showing was drowned out with Ray Charles starting his amazing blues music. It was very funny.
I see, so we did in fact actually have a preview.
Après quelques problèmes techniques de début d'année, Radio Atlantis parvint à améliorer sa qualité de diffusion. En mars, elle introduisit des flashs d'informations et en mai, les programmes en anglais sont étendus à 13 heures par jour. Le gouvernement néerlandais annonça que la loi anti-radio offshore entrerait en vigueur le 31 août 1974 à minuit. Les deux stations partant du Miamigo déclarèrent aussitôt qu'elles poursuivraient leurs émissions au-delà de cette date. L'une d'entre elles, Radio Miamigo, rencontrait d'ailleurs un réel succès auprès du public flamand, mais aussi des annonceurs belges, néerlandais et même français. En prévision de l'entrée en résistance, Radio Caroline ferma son bureau hollandais et commença à utiliser l'adresse espagnole de Radio Miamigo. Du côté de Radio North Sea International, c'est un peu la confusion. Les deux responsables suisses ne s'étaient pas exprimés sur leurs intentions face à l'entrée en vigueur de la loi, laissant les rumeurs circuler. On crut d'abord que le Mebo 2 serait déplacé vers un autre lieu et que les programmes en anglais se poursuivraient au-delà du 31 août 1974. Puis il fut finalement annoncé que les deux programmes néerlandais et anglais cesseraient à cette date. Telles que les choses se présentaient, tout comme Radio Veronica, RNI n'allait pas résister. Pourtant, des rumeurs continuèrent à circuler sur l'avenir du Mebo 2, car rien ne fut annoncé concernant son devenir. Le 6 juin, une tempête mit à bas le mât de transmission du Janine et quelques instants plus tard, l'émetteur de Radio Atlantis tomba en panne. Le lendemain, le Janine rompit son ancre et dériva sur une trentaine de kilomètres pour s'échouer sur un banc de sable. Le navire fut remorqué dans les eaux internationales vers son lieu d'ancrage, une nouvelle ancre fut installée et le 9 juin, la station était de retour sur les ondes.
This week's number 10 down around the Radio Atlantis hotline hits Sporty Wonders. Up to last week's number 32, Brian Ferry and the In Crowd. It's 4 minutes past 7 o'clock and a very, very good morning to you. And it's the first time I've talked to you on Snap, Crackle and Pop now for about 3 or 4 days. And some rather interesting things have been happening on the boat. You might realise that we haven't in fact been on the air for the last couple of days. Well, this is because of rather complicated circumstances, which I'll be explaining a little later on, all right? So stay tuned all the way through to late here on Snap, Crackle and Pop. Dave Vane behind the mic.
Dave?
Who? Owen! Oh, you horrible fellow. Sunday morning, and of course, where are we? The 9th of June, 1974. All right, what bright spark pulled the anchor chain in? Rebound from the Bay City Rollers.
Radio Atlantis était très écouté et séduisait également les annonceurs. Malgré tout, son service flamand cessa de diffuser des publicités à la fin du mois de juin, craignant d'avoir des ennuis avec la loi belge qui interdisait toute relation avec une station maritime. Toutefois, Adrian van Langschot avait les moyens de faire vivre cette radio sans se soucier de la publicité. Le 21 juin, Radio Caroline fait indirectement une incursion sur le territoire britannique. En effet, la station débuta la promotion du Loving Awareness, une sorte de philosophie de l'amour universel qui va bientôt s'inviter régulièrement dans les programmes sous forme de spots publicitaires ou d'interventions des DJ. Pour lancer cette idée, une rencontre est prévue au monument de Stonehenge, un ouvrage mégalithique construit entre moins 3000 et moins 1100 avant Jésus-Christ et situé dans le sud de l'Angleterre, dans le comté de Wiltshire. Le 12 août, le gouvernement néerlandais annonça que les dispositions de la loi contre les bateaux émetteurs entreraient en vigueur le 31 août. Le 17 août, Radio Atlantis annonça qu'elle ne poursuivrait pas ses émissions au-delà de cette date. Trois des quatre navires radio allaient donc théoriquement se taire et encore une fois Radio Caroline et a priori Radio Miamigo allaient être les seuls à braver la loi néerlandaise. Mais comment allait-on pouvoir résister depuis le Miamigo ? Après la promulgation du Marine Broadcasting Offense Act britannique le 15 août 1967, Radio Caroline n'avait pu tenir que 7 mois en étant ravitaillée depuis la Hollande. Mais aujourd'hui, ce pays légiférait à son tour. Depuis quelle région le Miamigo pourrait être approvisionné ? On évoque l'Irlande ou l'Espagne. En tout cas, Ronan O'Reilly entre peu à peu dans l'histoire en étant le plus ardent défenseur de la liberté d'expression radiophonique. Si aujourd'hui cette liberté semble à peu près acquise dans de nombreux pays, il faut se souvenir qu'à cette époque, le monopole d'État à la radiodiffusion était en vigueur dans de nombreuses nations. Cela ne veut pas dire que les programmes proposés étaient de mauvaise qualité ou ne tenaient pas compte des attentes du public. Mais la possibilité de proposer ou de participer à des programmes radio était réservée à une élite. Si Ronan O'Reilly a parfois été décrit par la presse britannique comme un homme d'affaires opportuniste, à l'époque de la naissance de Radio Caroline en 1964, il est clair que 10 ans plus tard, ce n'est plus l'appât du gain qui motive sa démarche. Le Miamigo est vieux et il a été contraint de le louer à plusieurs reprises à d'autres radios pour pouvoir le maintenir à flot. Ronan O'Reilly tient maintenant sans doute plus de l'aventurier que de l'homme d'affaires avisé. Comme pour préparer la seconde entrée en résistance de Caroline, les heures de diffusion furent augmentées. En juin, elles s'étendirent de 20h à 6h, puis de 19h à 6h en août, les DJ laissant régulièrement entendre que la station émettrait bientôt à nouveau en journée.
The time in Central Europe is now exactly 10 o'clock, or for Graham, the big hand is on the 12 and the little one on the 10.
Nieuw van KTL voor de old time greatest hits. Het is van de originele sterren, met een fantastische Mac en Katie Kissel. Mama's and papa's. Focus, Creedence Clear the Revival, the Hollies, Sports Up, Deep Purple, and Sly the Family Stone. Shocking Blue.
C'était Le DJ de la haute mer, 26e épisode.
Radio Caroline.